Rebonsoir et bienvenue dans ce spécial dialogue entre Congolais qui se penche ce soir sur le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées à la sécurité, à l'éducation, à la parité, la candidature de la RDC au poste de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. Pour décortiquer ce discours, je reçois dans cette émission Jean-Michel Kalonji, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Jean-Michel Kalonji, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir également à mon co-débatteur.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Costa Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ECID en charge de la coordination des opérations de vote. Il était membre de l'équipe de campagne du candidat Martin Fayulu, comme je l'ai dit. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. En Mbujimayi, dans la province du Kasaï Oriental, vous nous suivez sous la 93.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Vous pouvez également aussi suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
On va aller droit au but, entrer dans le vif du débat de ce soir. Jean-Michel Kalonji, nous venons de suivre avec vous, dans ce studio de Radio Okapi, le discours de Félix Tshisekedi à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique. Que pensez-vous du discours du chef de l'État, surtout en ce qui concerne l'agression dont est victime la RDC?
Je voudrais dire d'emblée déjà que le président de la République a brossé toute la situation politique, économique et sécuritaire de notre pays, et principalement sur les enjeux sécuritaires, la guerre d'agression que nous sévissons à l'est de la République démocratique du Congo. Le président s'est penché sur la question de la feuille de route qui est négociée pour l'instant en Angola, et il a bien relevé que cela avance parce qu'il y a certains pays qui voudraient que cette crise soit résolue par des négociations, par une facilitation de certains pays, mais aussi relevé que cette situation de guerre nous imposée détruit fortement le pays. Il y a aujourd'hui du terrorisme qui s'installe à l'est, et c'est terrorisme qui tue et qui sévit à travers le monde, est spécialement lié à l'enrichissement et l'exploitation des richesses de notre pays. Et il a relevé qu'il faudrait que toute la communauté internationale et tous les pays du monde puissent prendre en compte cette situation, et qui, au nombre des déplacés des communautés, au nombre de certains vices qui se sont installés, comme le viol qui est installé en armes dans la partie est du pays, en outre, il a parlé du génocide, ces génocides économiques qui s'est installé dans l'est du pays. Donc tous ces phénomènes qui s'installent et qui empêchent le pays de penser développement, il est nécessaire que nous puissions tous nous mettre ensemble, que ce soit déjà les pays africains, mais aussi toute la communauté internationale, pour trouver une solution et une paix durable, pour permettre aux fils et filles de la partie est de notre pays de pouvoir vivre paisiblement. Donc au regard de toutes ces situations, il faudrait que nous ayons un dialogue responsable et honnête avec les pays agresseurs, qui, notamment le Rwanda, qui est cité et documenté à plusieurs fois dans les rapports des Nations Unies. Et
on sent que le discours du chef de l'État a changé, parce qu'il y a quelque temps, le chef de l'État était contre un dialogue avec le président Paul Kagame.
Nous restons et nous respectons nos pères et certains voisins. Et il y a un processus lancé par le président angolais qui est soutenu par d'autres présidents. Nous voudrions obligatoirement et nécessairement aller avec ce processus, mais qu'à cela ne tienne, nous nous préparons aussi et à la guerre. Donc nous armons notre pays, nous formons nos militaires, et s'il faudrait faire la guerre, nous allons faire la guerre. Mais faire la guerre, c'est dépenser énormément d'argent. Au lieu d'investir cet argent dans le développement du pays, nous dépensons de l'énergie, et aussi il y a beaucoup de nos fils et filles qui meurent pendant cette guerre. Donc s'il y a une solution qui nous permette de ne pas sacrifier un Congolais de plus, le président adhère à cette solution. Mais il ne faudrait pas que nous continuions à nous dire que on doit dialoguer. Le Rwanda, à plusieurs reprises, le président Tshisekedi a tendu la main au président rwandais. Il a invité à plusieurs reprises dans ces pays. Il y a eu des accords économiques avec le Rwanda, mais le Rwanda ne respecte pas sa parole. Donc, pour une fois de plus, le président ne voudrait pas être accusé d'un vote en guerre. Il donne la chance au président angolais qui pilote ces négociations pour voir jusqu'où on va. Mais si cette situation, il n'y a pas un accord et que le Rwanda ne respecte toujours pas ses deals, nous allons trouver des solutions pour gagner cette guerre. Parce que le pays et le Congo doivent se défendre. Il faudrait que notre armée puisse prendre totalement possession de notre territoire, sécuriser tout fils congolais et ainsi permettre le développement de cette partie hautement riche de la RDC. Mais au même moment, le président a parlé aussi des questions économiques. Il parle du barrage Inga. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, le déficit en énergie en République démocratique du Congo est énorme. Juste prendre un exemple, le secteur minier dans le Katanga est en déficit de 2500 à 3500 mégawatts. Donc aujourd'hui, la construction du barrage Inga devient un problème de sécurité nationale parce que nous commençons à dépendre des autres pays, de l'importation de l'énergie. Mais dès qu'il s'est posé des problèmes de sécheresse en Zambie, la Zambie nous a coupé les robinets. Il n'y a plus eu importation du courant, donc nos mines se retrouvent en déficit. Donc il faudrait voir que au lieu d'envoyer autant d'argent dans la guerre, nous devons investir dans le développement du barrage Inga. Il y a la fibre optique. Nous pouvons permettre la connexion de deux océans, partir de Mwanda vers la partie Est, et les autres pays de l'Est peuvent se connecter sur les réseaux congolais. C'est des entrées de devises pour le Congo, parce qu'il faudrait diversifier notre économie. Donc nous restons dans toutes ces questions de développement, mais aussi nous voulons que les pays étrangers puissent aussi aider sur la traçabilité des matières premières. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de traçabilité des matières premières qui sortent de la RDC, on aura toujours cette guerre d'agression, parce que chacun va venir exploiter illégalement et sait vendre. Mais si le processus de Kimberley, qui aujourd'hui permet la traçabilité de diamants, peut s'étendre sur d'autres minéraux, et aussi la certification des mines dans d'autres pays. Parce que le Rwanda aujourd'hui déclare une exportation qu'elle ne peut pas prouver localement. Il faudrait que nous puissions certifier les mines en RDC et dans les pays voisins, et faire correspondre les exportations de chaque pays à ces mines. De cette façon-là, la guerre peut s'éteindre, parce qu'on ne pourra plus vendre les minéraux sortis illégalement d'un territoire.
Alors, Jean-Michel Kalonji, le chef de l'État se dit prêt à un dialogue de haut niveau entre la RDC et le Rwanda. Entre-temps, il demande à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda par rapport à cette guerre d'agression.
Nous ne pouvons pas cautionner plus de 3 millions de morts.
Quand vous prenez ce chiffre, c'est banal de les citer, de dire 3 millions. Mais imaginez-vous que c'est la population d'un pays comme le Gabon. On avoisine cela. On avoisine les populations des pays entiers. Donc, qui ont été massacrés pendant cette guerre. Donc, il faudrait que le pays, le Rwanda, soit sanctionné pour indemniser le Congolais qu'ils ont tué par cette guerre d'agression. Nous ne pouvons pas trouver une solution, mais n'est pas. Il y a eu des sanctions contre l'Ouganda. Donc, nous souhaitons qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda doit payer la destruction de tous les champs, de tous ses vies humaines. Ne doit pas rester laissé gratuitement au Rwanda, même si nous voudrions discuter à haut niveau, mais cela doit se faire dans le respect mutuel des uns et des autres, mais aussi d'abord reconnaître les fautes et payer.
Merci. Christian Moleka, je rappelle que vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Que retenir de ce discours de Félix Tshisekedi?
Bon, je crois qu'on peut retenir, disons, trois volets. Le premier volet, il est revenu sur les problématiques de la réforme de gouvernance internationale, gouvernance mondiale, avec le multilatéralisme. Il y est beaucoup revenu, avec son soutien à la nécessité de donner à l'Afrique de place au sein du Conseil de sécurité avec le droit de veto, donc toutes les prérogatives. Ensuite, il a abordé les problématiques sécuritaires liées au Congo. On peut retenir des éléments habituels de langage, à savoir le Congo est agressé, il faut sanctionner le Rwanda, puis une inflexion, vous l'avez d'ailleurs souligné, une inflexion sur son discours d'antan, à savoir on ne parlera plus avec le Rwanda. On sent qu'il y a une dynamique qui s'est mise à New York, d'ailleurs beaucoup de voix, notamment du côté américain, qui ont rappelé qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre, qu'il faut aller vers une solution politique. Et donc là, on sent une inflexion du président sur la nécessité de parler directement avec Kigali. Par contre, tout en reconnaissant cette inflexion-là, il y a des éléments qu'il a soulevés qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt. Il parle de la nécessité, pour lui, prioritairement, dans le DDR, de commencer par les forces étrangères, donc notamment l'ADF, et les RDF, alors que lorsque vous avez suivi les travaux à Luanda, la partie rwandaise a posé le préalable notamment à le phénomène Wazalendo. Donc il y a encore du chemin à faire sur ces questions là. Le président est revenu sur la problématique de la traçabilité des minerais. C'est une problématique importante parce que la guerre au Congo est liée à une prédation économique, et donc on ne peut pas résoudre les problèmes si fondamentalement on ne s'attaque pas aux questions des fonds qui sont les prédations économiques. Mais bon, on a un mécanisme qui existe au niveau du CIRGL. Mais ce mécanisme n'a jamais fonctionné parce que justement les pays voisins sont très intéressés par la stabilité au Congo qui alimente l'économie. Comment pouvez-vous mettre en place un mécanisme régional de certification quand l'économie des guerres est alimentée par ces mêmes pays-là? On ne peut pas demander à des gens qui bénéficient de cette économie, de se faire harakiri, ça ne marchera pas. Et donc si le Congo veut sécuriser les minerais, ça passe par sa capacité d'abord à garantir sa souveraineté sur ces minerais-là, sur son sol. Donc il y a des questions de fond qu'il faut régler. Et puis après, le président a également souligné la problématique des déplacés internes. On est à 7 millions de déplacés internes, ce qui est un pic humanitaire énorme. Et là également, il parlait de manière très liminaire sur la transition post-MONUSCO. On a moins senti la position ferme qu'il avait auparavant sur un retrait avant la fin de l'année. C'est juste une ligne dans son discours, à savoir assurer une transition post-MONUSCO, mais qui n'évoque pas ni l'évaluation en fait la première phase de retrait, ni de la possibilité d'évaluer à court moyen terme de ce qui reste à faire. Donc on sent qu'il y a sur ce point-là également peut-être une inflexion, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Sami RDC, le Congo a besoin du soutien de la MONUSCO pour accompagner Sami RDC. Donc il y a des points d'inflexion sur sa sécurité et des points d'inflexion sur des questions de négociation. Après, il est revenu sur des questions, je dirais, de gouvernance générale, le climat, le financement des forêts, la problématique du genre, qu'il aime bien aborder, et les questions, je dirais, presque d'économie mondiale. Donc voilà pour moi les trois temps de ce qui peut être pris comme le discours du président.
Alors, Christian Molleca, une certaine opinion estime que depuis l'adresse du président de la République de septembre 2023, il y a une année, dans ses volets sécuritaires, droits de l'homme, ou même la résolution du conflit qui oppose la RDC au Rwanda, il n'y a pas eu une avancée significative sur les terrains. Est-ce que, avec ce nouveau discours de Félix Tshisekedi, vous pensez que sur les terrains, les choses pourraient changer ou évoluer positivement?
Je ne voudrais pas être pessimiste, mais déjà il faut prendre le contexte. Nous sommes dans quel contexte mondial? Nous sommes dans un contexte où les tensions aujourd'hui au niveau du Liban nous amènent vers probablement une troisième guerre mondiale, hein, avec la possibilité d'alliance régionale entre l'Iran, la Russie, Israël, les États-Unis, et donc l'escalade d'un conflit mondial. Nous sommes dans un contexte où les tensions entre l'Ukraine, la Russie, les pays occidentaux sont très très poussées. Et donc c'est pas la question congolaise qui est à la une à l'ONU aujourd'hui. Nous sommes une question qui va forcément passer sous l'ombre de grandes questions, à savoir réforme de l'ONU, multilatéralisme agressif aujourd'hui et les tensions des guerres. Et donc c'est une question qui sera remise au niveau régional, donc à Luanda. Et d'ailleurs le président angolais, lorsqu'il a pris parole, a rappelé ce que l'Angola a fait. Et donc tout dépendra de notre capacité à créer dynamique autour de Luanda. Sinon, on pourra assister à une reprise des hostilités, et peut-être que ce sera la réalité de terrain qui poussera à une attention plus forte du comité international. Mais il faut s'attendre aujourd'hui à une attention très forte. Les États-Unis sont en train d'attendre novembre pour savoir qui prendra la Maison-Blanche. Ils sont ailleurs. Et donc pour nous, ce n'est pas un temps favorable à l'avancée. Après, sur le terrain, nous, depuis septembre 2023, nous avons perdu sur le terrain militairement. Vous avez une rébellion qui aujourd'hui, une agression qui est aujourd'hui jusqu'à Lubero, alors que la dernière fois où la guerre est arrivée à Lubero, c'était 2006. Donc on a toujours eu une guerre contenue dans les Rutshuru, Masisi, Nirangongo, mais cette fois-ci, on ne va plus là vers les portes de Butembo. Donc, cette dégradation sur terrain ne nous est pas favorable. Il y a une dynamique qui se met au niveau de Luanda. On verra jusqu'où Luanda va aller. Le président angolais a parlé d'un projet d'accord sur la table aujourd'hui, un projet d'accord de paix. Nous verrons si ce projet sera ratifié par les différents partis et permettra d'avoir cette fameuse rencontre au sommet qui nous permettra de réchauffer un peu les relations entre Kinshasa et Luanda.
Rencontre de haut niveau, comme l'a dit le président de la République lui-même, le M23 ne se reconnaît pas ou a toujours rejeté le fait qu'on dise que le Rwanda est son interlocuteur à Luanda. Qu'est-ce que vous en pensez? La rencontre, ce sera avec le président rwandais. Le M23 ne sera pas associé parce que Kinshasa a déjà dit non au M23. Comment ça va se décompter?
Il y avait deux volets au niveau des négociations. Il y avait le volet de Nairobi, qui avait un volet politique des négociations avec le M23, puis un volet Luanda, qui davantage était bilatéral avec Kinshasa et le Rwanda. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nairobi est au point mort, Kinshasa ne s'en appelait plus. Et donc, en mettant en point mort le volet Nairobi, on a arrêté les possibilités de prendre politiquement une solution à la problématique du M23. Et donc, on s'est concentré uniquement sur si Kinshasa et Kigali, en pensant que les bilatérales régler les problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, régler le problème avec le Rwanda directement ferait disparaître les M23, ça c'est ça qui semble être l'approche de Kinshasa, mais c'est une approche dangereuse, parce qu'à un moment donné, on connaît la position du Rwanda, qui est celle de se dissocier en partie avec les M23. On peut assister à un scénario où le Rwanda se retirerait officiellement, mais garderait l'appendice M23 pour d'autres fins. Et donc, le Rwanda a tenté d'associer par la petite porte les M23, la délégation est arrivée à Luanda, ils ont négocié. Lors de la dernière rencontre des ministres, le négociateur a présenté aux différentes parties la position des M23 qui s'alignait sur ce qu'il fait. Kinshasa a pris acte simplement du fait que le M23 s'est décidé à rejoindre le feu sans aller plus loin. Est-ce que Luanda va permettre de faire une conjonction là où le Nairobi a échoué, ou est-ce qu'on va être contraint de certaines manières de les relancer Nairobi? C'est ça la grande équation qui pour l'instant n'a pas encore de réponse.
Faustin Kouakoua, bienvenue dans ce studio de Radio Okapi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECID en charge de la coordination des opérations de vote. J'espère que la présentation n'a pas changé, elle reste la même.
Je m'occupe aussi de province.
Voilà, alors merci. Et quelle analyse vous faites du discours de Félix Tshisekedi à la 79e session de l'ONU?
Merci madame pour votre invitation. Comme mon prédécesseur, excusez-moi, je fais remarquer tout simplement que, par rapport à ce qu'il vient de dire, pour résumer ce que M. Félix Tshisekedi vient de dire, que pour moi, en plus de ce qu'il a dit, c'est un discours qui n'est qu'une, comme on dit, un fait de politique générale, du déjà entendu. Rhétorique sur laquelle on revient toujours. Et je pense que au niveau de ce que nous appelons les conseils des Nations Unies, un organisme qui est à sa 79e année, on n'a pas le temps d'aller ressasser des choses que tout le monde connaît. Il faut aller droit au but par rapport aux problèmes qui sont les vôtres. Mon prédécesseur vient de dire ici que ce n'est peut-être pas le temps aux Congolais, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent au niveau mondial, entre autres la question ukrainienne, entre autres les problèmes en Palestine. Mais là, je rebondis en disant, mais qui met sur l'agenda des problèmes qui concernent les différents pays? Ce sont les pays eux-mêmes. C'est donc l'occasion rêvée où soi-même, on doit amener son problème et qu'on doit se concentrer pour mettre ces problèmes-là sur la table. Ainsi, moi, par exemple, j'aurais voulu entendre qu'on dise, voilà, c'est depuis 30 ans que les Congolais sont en train de souffrir. Aujourd'hui, terminé, je ferme les frontières entre les Congos et le Rwanda. Je coupe, par exemple, les relations diplomatiques. Je m'engage à faire la guerre, pourquoi pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, Israël. Malgré tout ce que le monde dit, Israël fait la guerre. Et c'est comme ça que le monde reste attentif à suivre pour pouvoir trouver des solutions. Les Hamas, même le Hezbollah, répliquent. Et c'est pourquoi leurs problèmes s'invitent à la table, on cherche à trouver des solutions. Mais ici, on utilise une rhétorique qui me semble un peu incompréhensible par rapport à ce que nous appelons la nation en danger, la nation en guerre. On n'a pas à aller chercher toujours de prétextes pour se défendre. Non, on ne veut pas s'engager en guerre. On n'est pas votre guerre. Mais c'est la nation.
C'est pour épargner la population.
Mais la population est en train de mourir, madame. Nous enregistrons tous les jours des morts et des morts.
Engager une guerre, ça pourrait être peut-être pire qu'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez? Engager une guerre pour la gagner en une année? Ou laisser perdurer la chose en 30 ans et enregistrer plus de 10 millions de morts. Dites-moi, 10 millions de morts ou plus, qu'est-ce qui est avantageux? Qu'est-ce qui est favorable à nous? C'est la question que nous devons nous poser. Moi, j'ai entendu la boucle.
Vous la savez, RDC est-elle prête
à la tribune
pour la guerre?
Mais justement, c'est là le problème. Si nous ne sommes pas prêts, pourquoi nous ne sommes pas prêts? C'est là la vraie question. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Parce que visiblement, moi je constate qu'il y a souvent par rapport à ce problème de guerre, de contradictions dans le dire et le faire. Où on se pose la question, est-ce que pour avoir eu le pouvoir de ces gens-là, pour avoir signé des deals, il y a des choses qu'on n'a jamais dit évidemment à la population congolaise, il y a des choses auxquelles on s'est engagé, qui les implique d'une façon ou d'une autre à ce qui s'est fait pour qu'on puisse rester comme ça. Je vais citer un exemple. Dernièrement, ici au Parlement, nous avons vu un collectif de députés d'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, en train de dénoncer le maintien de l'état d'urgence ou l'état de siège. Puisqu'ils disent très bien que cet état de siège profite à l'ennemi plutôt que à la population congolaise. La population en sort victime et il faut enlever cet état de siège. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le Parlement, contrairement d'ailleurs à la Constitution, a entériné encore le maintien de l'état de siège. Et là, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Les députés qui sont le porte-parole de la population, qui vivent cette réalité au quotidien, viennent vous dire que non, cet état de siège ne répond pas. Il faut fermer les frontières. Il faut faire autre chose que ce que vous faites. Non. Depuis des années, on nous dit l'armée est infiltrée. Mais jamais on a vu ces infiltrés être exfiltrés de l'armée. Vous nous demandez est-ce que nous sommes en état aujourd'hui pour faire la guerre. Mais ce sont là des problèmes cruciaux auxquels on doit répondre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude de la gestion de la guerre? Cette attitude de négative, je dirais moi, ou même, excusez-moi les termes, un peu irresponsable de la gestion de la guerre, ne nous donne pas une vision claire de ce qui se passe entre le Rwanda et ceux qui sont au pouvoir. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, devant le siège des Nations Unies, j'aurais bien voulu entendre un discours volontariste. Parce que pour que ça s'invite sur la table, on doit sentir de nous-mêmes. Je reviens encore sur ce que, par exemple, Macron aurait répondu à M. Félix ici quand il était passé. Justement, cette incohérence. Vous voulez des déclarations comme on les demande tout le temps. Condamner et condamner. Ils vont condamner et puis après. Et puis après. Oui, Rwanda, vous attaquez le Congo, sortez de là. Et puis après, qu'est-ce qui va s'en
passer? Pas seulement condamner, mais aussi sanctionner.
Mais les premières sanctions doivent partir de nous-mêmes. Les premières mesures doivent partir de nous-mêmes. C'est nous qui devons apprendre à mettre ce que nous devons mettre sur la table pour que les autres nous suivent. C'est comme ça que Macron avait dit à M. Félix Tshisekedi ici, vous-même, prenons le cas du rapport Mamping. Il y a des autorités militaires qui ont été citées, des personnalités citées, mais vous n'arrivez même pas à les punir. Vous les gardez encore dans votre armée. Et vous nous demandez, à nous qui sommes à l'extérieur, de condamner. Donc, il y a une attitude. Mais la communauté internationale attend de nous-mêmes dans la gestion de la crise. C'est à partir de cette attitude que les autres peuvent faire quelque chose. Si nous sommes nonchalants, si nous sommes un peu, on regarde les choses comme ça, ce n'est pas des autres, ça viendra. La paix, pour la préparer, c'est celui qui vit dans la souffrance qui doit être le premier acteur. Et dans le monde, dans la gestion de toutes les crises, on a vu que celui qui sent ses intérêts lésés, qui sent que son pays est lésé, c'est lui qui va en guerre. C'est une responsabilité d'État. C'est une responsabilité d'État. C'est ça qu'il s'agit. Alors, quand j'entends tout ce que M. Félix a dit, bon, ce sont de bonnes intentions, mais ça ne reflète pas la réalité présente du Congo, un pays agressé, dont les conséquences, lui-même l'a dit, l'objectif du développement, ils ne l'ont pas atteint. Pourquoi? Il dit même que, même en 2030, on ne saura pas atteindre ça à cause de la guerre. C'est-à-dire que cette guerre affecte durablement, d'après ce qu'ils disent, la gestion du pays. Mais comment trouver des solutions pour régler cette guerre? Non. Là, les choses sont dans tous les sens. Et nous disons, soit il y a une complicité passive ou active, ou alors il y a une incompétence notoire dans la gestion de l'État.
Merci Faustin Kouakoua. Les internautes sont très nombreux à suivre cette émission sur la page Facebook de Radio Kapi, le compte X de Radio Kapi, ainsi que la chaîne YouTube de Radio Kapi, Kaikai Kabasele Kalumba depuis Kananga au Kasaï Central. À mon avis, le discours de ce jour est très salutaire dans le sens où il est axé sur l'unité, la paix, la collaboration, la sécurité et l'investissement des États, mais sans volonté politique des États de faire mieux, il n'y aura pas de moyens importants pour concrétiser les actions visant le développement des États. Il n'y aura pas de sanctions exemplaires contre les pays agresseurs des autres. La RDC doit compter sur elle-même. Jean-Michel Kalonji.
Oui, je voudrais dire que le président de la République est resté ferme. Il est resté sur sa logique. Nous ne discuterons pas avec le M23, parce que le M23 n'est autre que le bras exécutif du Rwanda sur le territoire congolais. Donc au lieu de perdre du temps à discuter avec le M23, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas un réel projet, il faudrait discuter avec ceux qui ont besoin de cette situation catastrophique de l'Est, c'est le Rwanda. Donc, une réunion au sommet du pouvoir à haut niveau avec les présidents africains et les autres partenaires bilatéraux est louable pour résorber cette guerre. Je voudrais dire à mon co-débatteur, il est vrai de dire qu'il faudrait fermer les frontières. Mais vous savez, quand on est dirigeant, on est en connaissance de plusieurs informations. Et il faudrait étudier l'écosystème social-économique de la partie est du pays pour comprendre que tant qu'en interne, nous n'avons pas développé des solutions en termes d'infrastructures et de voies de communication, nous ne pouvons pas fermer les frontières de la partie est de notre pays parce que ce sont les voies de connectivité et d'entrée des provisions dans la dans notre pays. Goma, Bukavu, Kisangani sont approvisionnés par le port de Mombasa qui il fait passer les produits par les pays voisins. Nous ne sommes pas en contact direct avec l'océan. Tant que nous n'avons pas développé le corridor qui nous relie à la Tanzanie, tant que nous n'avons pas développé des routes en interne qui peuvent connecter la partie est de notre pays à la partie sud-ouest, nous devons être très tactiques sur la fermeture et sur les connectivités dans cette partie du pays. Donc nous devons prendre des décisions qui puissent être avantageuses à notre population que de prendre une décision populiste pour faire plaisir à son ego personnel et que de faire encore souffrir notre pays. Donc c'est en connaissance de toutes ces situations que par moment il est accepté certains couloirs humanitaires, certains couloirs économiques pour ne pas encore faire souffrir de plus la population de la partie est. Et les infiltrer dans l'armée, l'état de siège. L'état de siège est bénéfique, mais comme toute œuvre, il faudrait accentuer le contrôle des armes. Il faudrait accentuer la sécurisation des populations, mais aussi savoir limiter les mouvements de la population pour ne pas avoir autant d'infiltrés et pour que cette guerre ne puisse pas très vite arriver dans des zones de grande urbanisation. Donc il y a autant de choses qui doivent être mises en place et que comme il n'y a pas encore de solution à long terme et comme le président l'a dit, le Congo doit se développer pendant une guerre.
Il n'y a pas encore de solution à long terme. À court terme, c'est quoi la solution qu'il y a ?
La solution à court terme, pour l'instant, comme le président l'a dit, il souhaiterait qu'il y ait ce dialogue pour pouvoir mettre fin déjà à l'agression. Ainsi, nous pouvons avoir les moyens de pacifier la partie est du pays. Mais tant que nous n'avons pas pacifié cette partie est du pays, il est difficile de parler de développement. Mais aujourd'hui, le budget de l'État, le développement de la RDC est ponctionné à grande échelle par cette guerre qui ne nous permet pas de construire le pays. Aujourd'hui, il est difficile de concevoir le Congo sans chemin de fer. Stanley l'a dit à son temps. Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas relié Mwanda à Kasumbalesa, à Kolwezi, tant que nous n'avons pas relié l'est du pays à Kinshasa,
Il est difficile de parler développement. Il est difficile de parler de l'énergie. Aujourd'hui, les pays manquent de l'énergie pour parler de son développement. Comment allons-nous transformer? Aujourd'hui, on parle de la transformation de nos matières premières. Mais déjà, juste l'exploitation, nous n'avons pas de l'énergie électrique pour l'exploitation. Comment allons-nous transformer les matières premières? Nous allons tirer cette énergie d'où? Aujourd'hui, je voudrais dire, l'Angola, le pays à côté, a terminé un barrage de 6000 MW, va terminer un autre l'année prochaine. Donc, nous allons bientôt commencer à importer de l'énergie électrique d'Angola. Nous sommes en train d'importer de la Zambie. Et aujourd'hui, nous allons même plus loin, importer du courant depuis la Mozambique. Et on cherche à relier la Tanzanie à la Zambie pour avoir du courant dans le Katanga. Et c'est inimaginable alors que nous avons un potentiel hydroélectrique le plus élevé de l'Afrique. Donc nous devons nous concentrer sur le développement, sur la construction du pays. Et pour cela, il faudrait terminer cette guerre. Et si le dialogue est le chemin le plus probable de nous faire arriver très vite à la fin de la guerre, à sécuriser notre territoire, mais surtout empêcher qu'il y ait un Congolais de plus qui fait couler son sang. Il faudrait que nous arrêtions, nous avons beaucoup perdu. Donc il faudrait trouver des solutions et développer notre pays. C'est ça le vœu du président de la République et nous allons dans ce chemin et soutenons cette volonté manifeste de terminer cette guerre par un accord bilatéral.
Christian Moleka, il y a Francis qui nous écrit depuis Johannesburg. En Afrique du Sud, nous aurions plutôt souhaité entendre le président Félix Tshisekedi hausser le ton face à l'indifférence que subit la RDC, victime de l'agression et autres crises dues notamment à l'insécurité. Malheureusement, cela n'a pas été le cas.
Je crois que c'est ce que nous avons quand même rappelé, parce que lorsque j'ai parlé du contexte international qui fait qu'il y a des guerres sous l'ombre, des guerres médiatisées, ben le Congo fait partie de ces pays dont les guerres passent sous l'ombre. Parce que l'attention médiatique internationale tourne sur les conflits à haute intensité que sont les conflits ukrainiens, les conflits palestiniens et maintenant le Liban. Donc oui, maintenant si vous voulez attirer l'attention internationale sur la problématique, il faut y aller par un choc émotionnel. Par exemple, le Congo aurait pu annoncer, puisqu'on parle de sanctions, saisir la Cour internationale de justice, comme on l'a fait pour l'Ouganda, pour revendiquer des sanctions. Là, vous auriez une vraie démarche qui s'inscrit dans une stratégie de bousculer la journée internationale qui semble aujourd'hui tourner vers d'autres conflits. Il fallait peut-être, il est très probable que, comme je le dis, aux États-Unis, énormément de voix qui appellent à une solution négociée et que le discours du président ne s'éloigne pas de ces voix, notamment du parrain américain qui est à la fois parrain du Rwanda et du Congo. Qui nous a, je ne dirais pas nous impose, mais nous exige de ce rapprochement politique plutôt que militaire. Et donc on a un discours du président qui est plus infléchi que le candidat de 2023 qui parlait de « on va se saluer qu'au ciel » ou au paradis, et donc qui tiennent compte de cette dynamique des parrains qui nous impose ce rapprochement régional. Est-ce que cette dynamique qui nous est imposée, qui n'est pas forcément de la volonté des acteurs régionaux, peut nous amener vers un résultat probant? Parce que le Rwanda y va, a pas forcé. Il n'y va pas de sa propre volonté, il y va parce qu'on nous pousse. Et donc c'est un choix qui n'est pas un choix volontariste et qui va donc probablement engendrer des résolutions à court terme si nous ne travaillons pas dans le fond du problème à répondre aux préoccupations de fond qui concernent les États eux-mêmes et n'est pas toujours dépendre de ce que les parents nous poussent. Donc oui, il y avait moyen peut-être d'avoir un discours plus dur, mais qui n'aurait pas épousé le contexte actuel et le point de vue des parrains qui nous poussent à la négociation.
Candidature de la RDC au poste de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. Le chef de l'État en a parlé dans son discours d'aujourd'hui. On revient sur ça juste après cette petite pause.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais.
Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Faustin Kouakoua, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint des LECIDE. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce faite par le président Félix Tshisekedi?
Madame, c'est pas la première fois que la RDC est membre de non permanent de.
Il a dit lui-même, le chef de l'État.
C'est pas la première fois. Donc, vous savez, en 1974, le président Mobutu, justement, devant la tribune des Nations Unies, avait fait une annonce très, très, très courageuse à l'époque, qui s'est définie en ces mots aussi. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Je ne sais pas si vous connaissez encore les cadres dans lesquels il l'a dit. Il y avait un pays qui agressait, qui était très soutenu par l'international, et Mobutu a pris une décision qui était pour ses parèbes américains, qui allait à l'encontre des intérêts des Américains. Et cela n'a pas empêché que le Congo puisse être accepté au sein des Nations Unies comme membre non permanent. Ce que je voulais dire pour essayer de répondre à monsieur
Kalonji,
vous savez, il y a l'adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Il y a ce qu'on appelle l'économie des guerres. Vous ne pouvez pas dire que notre pays n'a pas des infrastructures où il faut créer d'abord pour pouvoir favoriser, je ne sais pas, avant de fermer la frontière. Le problème n'est pas là. Quand le vôtre meurt, votre population est en train de mourir, la guerre demande toujours des sacrifices. La responsabilité d'État amène l'homme d'État à prendre des décisions, quelquefois pénibles, mais pour pouvoir éradiquer ce qui fait mal et trouver des solutions pour mettre le pays sur la bonne voie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que je parlais d'une responsabilité politique. Ça fait mal, bien sûr, la guerre, parce que personne n'aime la guerre. Personne n'aime. Mais quand on est comme ça agressé, vous n'avez pas d'autre choix. Quand vous voulez vous faire entendre et accepter, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre aussi des mesures qui puissent être conséquentes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dire qu'on ne peut pas parler du développement, il y a des choses. Pendant qu'on est en guerre, nous avons des pays qui sont en guerre, comme l'Ukraine. L'Est de l'Ukraine, non, l'Ouest de l'Ukraine est confronté à la guerre vis-à-vis de la Russie. Mais de l'autre côté du reste de l'Ukraine, la vie continue, le développement continue. Je voudrais vous dire une chose. Quand à longueur de journée, nous entendons ici 200 millions de dollars lapidés, 400 millions de dollars partis, 50 millions détournés, 15, ça va où ces montants-là? Même dans des pays qui ont des budgets de 1000 milliards de dollars, jamais les hommes politiques détournent autant. Mais ces millions-là, quand vous faites la sommation, qui se résume en des milliards, mais c'est de quoi construire ces barrages dont on a besoin? C'est de quoi réaliser des choses pour pouvoir répondre aux problèmes qui se passent là, à l'Est? Donc le vrai problème, comme je l'ai déjà dit, c'est un problème de volonté politique et de responsabilité politique. On doit savoir pourquoi on est au pouvoir et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est au pouvoir. On ne doit pas se cacher derrière des propos qui puissent faire plaisir. Non, parce que ce sont des décisions responsables à prendre et il faut les prendre quand il le faut. Quand il le faut. Et c'est comme moi je dis, c'est la réponse, je pense, à votre question, je l'ai dit. On peut être membre là-bas, mais tant qu'on restera faible, ça ne nous apportera pas grand-chose. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Ça, ce sont des demandes pour la consommation.
Alors, lorsque vous dites tant qu'on restera faible, c'est-à-dire quoi, Faustin, quoi?
Mais la faiblesse, faible. Nous sommes dans un pouvoir, avec un pouvoir faible. Nous sommes dans un pays faible qui ne fait pas entendre sa voix au niveau international. Sa diplomatie est faible. C'est comme lui qui le relève. Vous voyez les candidats de 2023? Avec ce qu'il fait aujourd'hui, il y a vraiment un écart. Et on doit se poser la question pourquoi. C'est un discours électoraliste pour la consommation. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a une pression de nos parrains? Je ne pense pas. L'Israël ne peut rien faire sans les États-Unis. L'armée israélienne est soutenue de fond en comble par les États-Unis. Tout ce qui se passe là, même aujourd'hui, Dès qu'il y a un problème, les États-Unis courent à la rescousse d'Israël. Mais vous voyez avec quel entêtement Netanyahou gère la situation. Combien de fois le secrétaire d'État américain est descendu en Israël pour faire entendre raison à Netanyahou? Mais quelle est l'attitude et le comportement de Netanyahou? Il obéit qu'aux besoins du pays. Vous me donnez des armes, mais moi je fais ce que bon me semble par rapport à la réalité sur le terrain. On l'invite au dialogue, Netanyahou refuse, il tue. Netanyahou est en train de tuer, mais l'Amérique court toujours derrière. Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Les relations internationales ne se font pas sur base de la charité, ne se font pas sur base d'une attitude de, comment je peux dire, de complaisance. C'est sur base des rapports de force. Quand ces rapports de force est en très 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 grande défaveur à vous, vous subissez ce que le Congo est en train de subir aujourd'hui. Nous devons relever les niveaux pour pouvoir parler avec les autres dans un rapport de force, si ce n'est pas équitable, mais à un niveau acceptable pour qu'ils nous entendent. Et nous avons besoin d'un pouvoir responsable et fort.
Jean-Michel Kalonji, réaction.
Je voudrais dire déjà que...
Nous sommes sur la candidature de la RDC.
La candidature de la RDC. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait réintégrer le système des Nations Unies au plus haut niveau et ainsi avoir l'occasion de présenter la situation réelle du pays à chaque instant et à chaque moment. Parce que au-delà de ce qui se passe, la RDC se place où dans la stratégie économique et la géopolitique mondiale. Il y a l'Ukraine, il y a Israël, il y a la RDC. Est-ce qu'on va se préoccuper de la RDC de la même façon que l'Ukraine ou bien d'Israël? Vous n'avez qu'à voir combien de milliards en dons, en armement, en conseils, en stratégie sont accordés à l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose que la RDC. L'Ukraine peut continuer à faire la guerre parce qu'elle reçoit 100 milliards chaque 3 mois, chaque 6 mois. Mais la RDC doit puiser dans son budget, qui est difficilement de 10 milliards. Nous faisons la guerre avec quoi? Mais de deux, nous avons cet embargo qui ne dit pas mot. On vous dit vous pouvez acheter les armes alors que tous les pays... producteurs d'armes ne vous les vendent pas. Vous faites la guerre avec quelle munition, avec quel armement? Le secrétaire général des Nations Unies l'a déclaré sur notre territoire que le M23 est mieux équipé que l'armée rwandaise, que les troupes des Nations Unies. Donc les forces armées congolaises ne peuvent pas gagner la guerre. Mais écoutez, quand les militaires congolais ont une arme qui ne peut avoir d'effet que s'ils sont à 500 mètres de l'ennemi, alors que l'ennemi tire avec précision à 2000 mètres. Comment vous faites cette guerre? L'ennemi sait vous abattre à 2000 mètres, alors que vous, les munitions que l'on vous permet d'avoir, vous ne pouvez être qu'à 500 mètres. Mais vous êtes déjà dans la ligne et dans le champ de tir de l'ennemi. Et ça, le secrétaire général des Nations Unies nous l'a dit sur notre territoire. Donc, au même moment, il faut trouver des mécanismes et des négociations au haut niveau pour qu'on nous permette à entrer en possession des matériels militaires qui nous permettent de prendre les dessus sur nos agresseurs.
Et
tout cela, il faudrait que nous soyons au cœur des discussions. Parce qu'on ne peut pas parler de vous à votre absence. Comment vous voudriez que d'autres personnes qui ne sont pas intéressées par la situation de la RDC parlent de nous et nous défendent s'ils n'ont pas d'intérêt au Congo? C'est une question légitime et je pense que le président de la République, au devant de toute cette situation, a compris qu'il faudrait que la RDC soit sur la table des discussions et ainsi elle peut porter haut et fort la situation réelle de la RDC. Et on peut, en ce moment-là, trouver des mécanismes, des solutions idoines pour permettre à notre pays de trouver comment
faire face à toutes ces situations économiques, à toutes ces situations de guerre qui nous sont imposées. Aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs personnes qui profitent de cette guerre. Aujourd'hui, la traçabilité des munitions, c'est une question que nous devons placer. Comment est-ce que des rebelles savent s'armer mieux qu'un pays agressé? Ils ne produisent pas ces armes. Ces armes ne sont pas produites en Afrique. Donc, il faudrait que nous puissions d'abord placer le problème de la traçabilité des munitions sur la table pour que les pays qui vendent aux autres les armes puissent ne plus les faire.
Merci Jean-Michel Kanongi, Christian Moleka. Pour mieux se faire entendre, la RDC devrait faire partie des membres, être parmi ceux qui discutent de ce qui se passe dans le monde. Le chef de l'État a parlé de la candidature de la RDC au poste de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que, comme l'a dit Jean-Michel Kalongi, il faut être dans le cercle pour se faire comprendre, entendre, écouter.
Discutable. 50% des questions traitées au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Et pourtant, l'ensemble des grandes missions de l'ONU se trouvent en Afrique. Et pourtant, l'Afrique a 3 sièges permanents au niveau du Conseil. Donc, c'est pas aussi direct qu'on le pense. Certes, ça permettra au Congo de pousser quelques dossiers, mais le problème il est plus complexe. C'est qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre au sein du Conseil de sécurité qui est un équilibre géopolitique d'un monde qui est en train de finir, à savoir ceux qui ont gagné la Première Guerre mondiale, donc les États-Unis et la Russie, avec leurs alliés, donc la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui forment les 5 permanents avec droit de veto. Donc il n'y a rien qui passera au Conseil de sécurité si l'un des pays majeurs disposant de droit de veto n'est pas avec vous. Soit la France, les États-Unis, la Chine. Généralement, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine. Si l'un de trois n'est pas avec vous, eh bien, vous ne ferez rien passer là-bas. Est-ce que notre stratégie diplomatique d'alignement derrière les trois pays qui peuvent influencer grandement la question congolaise sont-elles cohérentes? C'est ça qu'il faut questionner. Est-ce que notre alliance avec la France, qui est un partenaire important pour le Congo, notamment au Conseil de sécurité, nous permet aujourd'hui d'avoir un levier important. C'est ça qu'il faut questionner. Donc il faut travailler en profondeur. Et puis après, nous avons des adversaires qui ont pris longtemps un travail de lobbying, qui ont construit longtemps une stratégie diplomatique importante qu'il faut contrecarrer. Je donne un exemple simple. La Grande-Bretagne vient d'avoir un nouveau Premier ministre. Est-ce que le Congo pense aller? Quand est-ce que le Congo pense aller à Londres pour rencontrer le nouveau Premier ministre et essayer de construire un lobbying vers les anglo-saxons? Le Rwanda est déjà parti. Le président Rwanda a été reçu. Qu'est-ce que le Congo attend pour faire un lobbying fort vers les anglo-saxons et notamment vers Londres, qui, tout le monde connaît, est un point névralgique important dans la stratégie rwandaise. Donc ça, c'est un problème de fond qui dépasse le fait d'avoir un siège non permanent au sein du Conseil qui, du reste, ne donnera pas un droit de veto. C'est peut-être un moyen de renforcer votre lobbying, mais il n'est pas une solution, de mon point de vue, suffisante pour régler la guerre.
Alors, on va prendre encore ces internautes qui nous écrivent. Ils sont très, très nombreux à être branchés sur notre page Facebook. Mweni Biaki Roland Nyamusege, depuis que ce régime de Kigali agresse la RDC, les autorités de la RDC n'ont pas pris des mesures face à cette agression, voilà. C'est le message qu'ils nous ont envoyé. Lucien Bill, rien de nouveau dans ce discours, c'est dû déjà lu et entendu. Les dirigeants, j'ai l'impression que les dirigeants congolais sont à court des stratégies et dépassés par la situation. L'action est le seul moyen que vous avez pour changer la situation et non les discours. Ça, c'est Aimable Gadi Rougomo qui nous écrit. Luzolo Ganuma Urbain, je me demande bien si ces accusations apportent quelque chose aux résultats attendus par les peuples congolais, particulièrement ceux de l'Est du pays. Faustin Kouakoua, lorsque vous entendez ces genres de réactions de la population, qu'est-ce que vous vous dites?
Tout à fait, je pense que vos Voilà, vos Allez-y. Auditeurs qui viennent d'intervenir vont dans le sens de ce que nous avons dit. Il y a un fondamental que nous ne pouvons pas oublier, parce qu'il pose des questions, la question sur l'attitude de nos autorités vis-à-vis du Rwanda depuis que la guerre a commencé. C'est qu'il ne faut pas oublier, le Rwanda a réussi à placer des chefs ici chez nous. Le pouvoir vient du Rwanda. Ça, on ne doit pas oublier, même si les gens font semblant de ne pas reconnaître.
De quel pouvoir vous parlez?
Le pouvoir de M. Tshisekedi depuis 2018.
Vous avez quelle preuve, M. Foussa?
Écoutez, mais la preuve, mais allez demander à Kaya Nanga. M. Nanga, Kabila, et puis M. Kagame se sont arrangés pour pouvoir ne pas donner le pouvoir à celui qui a été élu par le peuple congolais.
Ça, c'est le discours de l'SID.
Mais non, ce ne sont pas les discours de l'SID, c'est reconnu au niveau mondial. Eux-mêmes, avec leur deal, ils se sont pas mis d'accord et Nanga est revenu là-dessus. Bon, voilà, ce n'est pas moi qui l'invente. Les résultats de la CENI avaient fuité, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas un secret. Donc, ça, c'est le péché originel. C'est le péché originel. C'est comme ça que j'ai fait allusion au deal. Le deal, quel était le contenu du deal? Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une façon de maintenir encore le deal de manière larvée? Alors, on est en train de tenir des propos pour endormir, pour distraire? Ou réellement, il y a une volonté de sortir de ces deals pour pouvoir prendre un chemin, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs obstacles. Mais tant que le peuple congolais restera tout à fait ignorant de ces deals-là, qui constituent un péché originel, les problèmes risquent de continuer à se poser. Voilà c'est pourquoi nous venons de proposer une cohésion nationale. L'espace où nous devons nous parler sincèrement, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il venait de le dire, il y a quelques années, la guerre n'était pas arrivée à Lubero. Mais aujourd'hui, ils sont 115 localités entre les mains des M23. 115 localités. Depuis qu'on a pris Bounagana jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 ans d'accompli, 3 ans où M. Félix Tshisekedi est passé devant la tribune de l'ONU, en train de dire les mêmes choses. Il faut condamner, il faut condamner, il faut condamner. Mais quel est le vrai problème? C'est notre pays. Nous devons nous mettre ensemble, nous regarder face en face. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles solutions devons-nous trouver? Quel chemin devons-nous prendre pour résoudre ces problèmes? Et demain, pour éviter que ça revienne, que devons-nous faire? C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas gérer ce pays avec beaucoup de complaisance, avec l'attitude de faire croire que c'est une poche d'un individu, alors on va accompagner tout bonnement, de manière aveugle, jusqu'au précipice. Non. Le problème que les auditeurs posent est vrai. Est vrai. Nous devons nous asseoir, nous devons nous regarder face en face. C'est complètement inacceptable pour nous Congolais de voir qu'un grand pays comme le nôtre, doté de richesses incommensurables, puisse vivre dans un état de... Voilà, je ne voudrais pas décrire ça, mais vous le savez.
Merci, voilà. Blaise Catalico. Félicitations, Monsieur le Président, et courage, le peuple congolais est derrière vous. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir, ce spécial dialogue entre Congolais, sur le discours du chef de l'État, du Président, Félix Tshisekedi, ce 25 septembre, à la tribune de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Jean-Michel Calmoji, vous avez suivi les analyses des uns et des autres, vous avez suivi les auditeurs qui nous ont écrit, qui ont envoyé leur réaction par rapport au discours du président de la République. Ne sentez-vous pas que il y a comme cette sorte de fatigue de les gens, la population a besoin d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression et qu'il faudrait prendre des mesures fortes pour mettre fin à cela?
Il n'y a personne qui peut aimer la guerre. Il n'y a personne qui peut admirer la souffrance. C'est 7 millions de déplacés internes. C'est plus de 3 millions de morts. Personne ne peut être heureux de cette situation. Le président de la République est conscient de cette situation. Et jour après jour, il travaille pour régler son problème. Excusez-moi. Mais ce problème ne peut être réglé que par la participation et la prise de conscience de tous. Les traîtrises en interne doivent cesser. La population doit prendre toutes les initiatives pour soutenir notre armée, nos autorités et avoir un discours constructif. Notre ami de l'ECD revient sur 2018 alors qu'il y a eu 2023. Donc s'ils avaient gagné en 2018, ils pouvaient bien gagner en 2023 s'ils avaient cet électorat. Et au-delà de ça, nous devons arrêter ces pays, ce qui tue ces pays, c'est les discussions des salons, les dialogues répétés. Chacun doit laisser celui qui a été choisi par la population de diriger et se battre pour le sanctionner aux élections. C'est de cette façon que, au fur et à mesure, nous allons avoir des gouvernants qui savent que je serai sanctionné de manière définitive et ils pourront gérer convenablement. Ce n'est pas tu es sanctionné, demain tu reviens par un dialogue. Et c'est là, on se retrouve avec un gouvernement qui n'a pas de nom, qui s'appelle Union Sacrée, qui s'appelle Union, et il n'y a pas une politique réelle. Je suis contre cette façon de voir les choses. Nous devons arrêter les dialogues. La seule façon de s'exprimer, c'est le Parlement. Les CD a des députés, ils n'ont qu'à lever la voix au sein du Parlement, au nom du peuple qu'ils représentent. On doit arrêter cette machination scientifico-stratégique congolaise qui, à chaque fois, on doit avoir un gouvernement d'union, de dialogue. Ça ne nous amène nulle part.
Je rappelle que vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre conclusion?
Je crois qu'on retiendra un discours à deux visages. Hein. D'un côté, les éléments de fermeté habituels, probablement pour répondre à l'opinion intérieure, et de l'autre côté, une forme d'inflexion qui laisse la place au dialogue, à l'ouverture avec le Rwanda. Donc, les yeux, il faudra maintenant les garder vers le Rwanda et voir ce que sera la suite demain du projet d'accord. C'est ça qui va nous orienter, c'est ce que sera l'évolution sécuritaire du Congo dans les jours à venir. Et donc, gardons l'espoir que le projet de négociation que porte à ce jour le président angolais peut être une base de rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Je crois que c'est l'horizon qui nous reste à court terme comme point de repère.
Postin, quoi?
Oui, madame. Si nous avons gagné les élections en 2018, on ne les a pas perdues en 2023, parce qu'en 2023, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu 6000 acres d'élections avec tricherie à ciel ouvert, des machines partout. C'est que les gens ne doivent pas oublier, le pays est en guerre. Quand on parle de la cohésion nationale, il ne s'agit pas d'aller partager les gâteaux. Non. Tout pays au monde qui est en guerre rassemble ses troupes. Les filles et les fils du pays se mettent ensemble. C'est que l'ami oublie, il y a la légitimité input et la légitimité output. Si réellement ils avaient une légitimité input, au niveau de la légitimité output, les actes sont tellement en contradiction que la souveraineté populaire ne peut pas attendre la fin des mandats.
Et c'est ce dialogue qui va mettre fin à la guerre.
Les gens doivent réagir justement parce qu'à ces dialogues, à cette cohésion, nous devons nous regarder face à face. Vous avez pris quelque chose de quelqu'un? Vous ne savez pas répondre à cela? Voilà, nous nous proposons. Pour pouvoir arriver à trouver la solution, voilà ce que nous devons faire ensemble. Parce que quand il n'y a pas de légitimité, il est difficile de mobiliser la population. Ça, les gens doivent le savoir. Ils doivent se regarder en face du miracle. Le problème de la légitimité output se pose. Parce que si vous n'avez pas de légitimité, vous ne mobilisez pas. Vous n'engagez pas le peuple. Alors, dans cette cohésion, tout le monde se mettra ensemble pour sauver la nation. Il ne s'agit pas d'aller partager les gâteaux, mettre un gouvernement. Non. Quel est le chemin que nous devons prendre pour sauver la nation. Merci. C'est ça qui s'est fait en Ukraine. C'est ça qui s'est fait.
Ensemble.
Non, non.
Merci.
Nous ne
merci,
sommes pas là.
Faustin, quoi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à la grande équipe hein, qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine. Guy Maté, Dona Madimba, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Vokia, Jean-Claude Tiala et Jean-Noël Mokondo étaient à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.